Radio Campus 106,6 FM. Comme chaque mercredi à 17h30, vous retrouvez le magazine USTL Info. Nous accueillons aujourd'hui Béatrice Delpouve, donc, qui est directrice du Centre international de Lille. Bonjour Madame Delpouve.
Bonjour.
Donc, les relations internationales, c'est quelque chose qui est de plus en plus important, évidemment.
Oui, bien sûr, mais ça fait moi 20 ans que j'y travaille, donc je suis convaincue et ça devient mon quotidien.
Alors, quand on a connu les relations internationales il y a 20 ans, qu'est-ce qui change dans le fond? C'est le nombre de personnes qu'on accueille qui sont étrangères, le nombre de gens avec qui on échange et peut-être l'ouverture des frontières. Est-ce qu'elles sont vraiment ouvertes et jusqu'où?
Oh, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. En fait, avant que je n'arrive à l'université, les relations internationales existaient déjà. Elles vont de fait avec la recherche. Ce qui change, c'est une certaine professionnalisation des activités. Quand on veut développer la mobilité à la fois des étudiants ou des chercheurs, eh bien, il y a des façons de s'organiser pour gagner du temps, pour gagner de l'efficacité.
Alors, cette mobilité, elle est rendue incontournable. Je pense que tous les étudiants qui n'ont pas un minimum déjà de langue étrangère dans leur pratique réelle et de disponibilité, on va dire, pour aller voir ce qui se passe ailleurs, ont relativement peu de chances d'aborder des professions de la recherche ou d'autres choses comme ça.
En fait, ça dépend parce qu'il y a plusieurs niveau dans l'internationalisation. On peut démarrer à 25 ans un profil international et être resté à Lille toute sa vie sans être pénalisé dans son avenir. Mmh. À un moment donné dans votre carrière, vous devez y penser. Mais rester localement, ça se réfléchit et il faut savoir pourquoi on est resté localement. En tout cas, quand on a envie d'être dans un certain train, il faut le prendre et l'université est une chance gigantesque parce qu'il y a des opportunités que ne vous retrouvez plus par la suite. Donc on demande à la personne d'y réfléchir dans son plan de carrière.
Le fait d'aller à l'étranger étudier, ça permet de constituer une amorce de réseau professionnel ?
Ah oui, bien sûr. La réponse, elle est énorme. Que vous ayez 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, la valeur ajoutée de ce que vous avez fait à l'étranger se résumera dans les liens que vous êtes capable de tisser. Et ça ne sert à rien d'aller à l'étranger pour rester enfermé dans sa chambre universitaire ou dans sa chambre d'hôtel. Si vous n'êtes pas un acteur de votre mobilité, vous n'en tirerez pas toute la valeur qui vous est propre. Oui, on peut tisser des relations. Oui, on sait comment prendre les gens. Et comme par magie, on a compris des choses qu'on n'aurait jamais compris si on n'avait pas été mobile à l'international.
Et également, le fait d'approcher un pays en y étant, je ne vais pas dire qu'on le comprend complètement, mais peut-être ça donne d'autres idées, d'autres impressions que celles qui sont livrées par les médias.
Oui, tout à fait. Il faut relativiser un petit peu les choses. Toutefois, je suis toujours un peu sceptique sur les mobilités très courtes, celles qu'on peut avoir pendant nos vacances, celles qu'on peut avoir l'été comme ça en faisant un petit job de 15 jours. Je pense qu'il faut quand même y réfléchir parce que, d'une part, on peut casser des tabous grâce à l'étranger, mais si on n'y reste pas assez longtemps pour tisser des véritables liens, on peut revenir avec des stéréotypes. Tiens, ils sont comme ci, tiens, ils sont comme ça. Et en fait, on n'a pas compris vraiment ce qui se passait. Et donc, à la limite, il faut quand même se méfier parce qu'on ne faudrait pas qu'on revienne avec des préjugés négatifs alors que c'est la durée qui nous fait apprécier tout cet aspect relation humaine qui est très relative finalement.
Et en même temps, les personnes qui sont allées il y a 10 ans ou 15 ans, dans certains pays, je vais dire, c'est pas forcément utile de les nommer, ont eu des impressions qu'il faut peut-être remettre à niveau, parce que les pays évoluent, l'économie évolue, les esprits changent aussi.
Oui, en fait, souvent, on a observé qu'en envoyant des gens à l'étranger, qu'ils soient étudiants ou enseignants, quand ils prennent l'habitude, ils trouvent vite le chemin pour y retourner. Évidemment, s'ils n'y retournent plus jamais, les choses sont à réactualiser. Mais en général, quand vous avez fait une première mobilité, magiquement, vous avez très envie d'y retourner. En fait, vous allez commencer à rentrer dans une certaine culture de remise à niveau de vos connaissances aussi du partenaire étranger, et vous serez plus volontaire, à la fois dans vos études, mais même dans votre vie professionnelle, pour accepter des nouvelles missions que votre employeur ou futur employeur serait prêt à vous attribuer. Grâce à cette première fois, il y en aura d'autres. Mais celui qui ne fait jamais l'effort une seule fois aura un peu plus de mal, je l'avoue, après à repartir.
Est-ce que les personnes qui partent, vous les entourez de conseils, vous leur donnez quand même au départ quelques clés pour ne pas se perdre, c'est-à-dire à l'étranger?
Oui, il y a... Quand on veut envoyer un étudiant à l'étranger, nous sommes obligés de veiller un certain nombre d'éléments. D'abord, il y a ses résultats universitaires. On ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'a déjà pas compris en français le contenu de quelque chose, parce qu'on va le faire en langue étrangère. Mais ça ne suffit pas, malheureusement. On peut être le premier de la classe et se sentir pas encore mûr pour franchir un pas à l'étranger. Donc on va veiller à ce qu'il ait déjà une bonne structuration, une bonne maîtrise des langues, et est-ce qu'il a un potentiel pour s'adapter à l'environnement nouveau. Et on est toute une équipe avec des enseignants qui devons veiller à tout cela. Et ensuite, quand l'étudiant arrive à l'étranger, en général, il nous écrit et on peut veiller à ce que ce soit bien organisé. Et pour certains d'entre eux, on insiste pour qu'ils aillent faire des cours de langue, et les profs de langue peuvent expliquer des choses qu'ils sentent, et grâce à ça, l'étudiant se familiarise avec des choses qu'il doit intégrer avant son départ. Donc on n'envoie jamais un étudiant en le lâchant complètement dans la nature. C'est pas possible.
Est-ce qu'il y a des pays où vous déconseillez aux étudiants d'aller, par exemple ?
Non, ce que je déconseille, c'est d'envoyer tout le monde partout. Je ne sais pas si c'est clair par rapport à ça. Tout le monde n'a pas l'âge, n'a pas la maturité ou le projet d'aller partout dans le monde. Alors, on y va par étapes. Et ça, c'est le travail, c'est l'expérience qui nous fait savoir que même en Espagne, on peut envoyer une catégorie d'étudiants, par exemple des grands timides, on les enverra dans tel lieu. Des gens qui adorent toute la théorie, on les enverra dans un autre lieu. Et des gens qui ont un sens très pratique des choses, on pourrait peut-être les envoyer encore ailleurs. C'est cette connaissance que l'enseignant doit avoir pour bien orienter ses étudiants. Et nous ne pouvons pas envoyer dans le monde entier certaines personnes parce qu'on sent bien qu'elles n'ont pas compris, elles n'ont pas encore relativisé par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur système éducatif français. Et ce serait un peu dangereux de les jeter du jour au lendemain dans une expérience qu'ils ne maîtriseraient pas eux-mêmes. Donc on est très vigilants, c'est une approche un peu psychologique.
Non, la demande pour aller à l'étranger, pour un étudiant, elle se fait de la part de l'étudiant ou ça peut être aussi une initiative de son professeur ?
Oh, c'est forcément une initiative dans les deux entrées. On a remarqué, on avait fait une étude en 2002 et on a toujours une catégorie d'étudiants qui veut partir à l'étranger. Il trouvera toujours l'information, il l'a déjà décidé dès qu'il est arrivé en première année. Il a même déjà choisi l'île 1. Parce que nous avons la réputation d'envoyer beaucoup d'étudiants à l'étranger. Ceux-là, on n'a pas de travail à faire avec eux pour les motiver. En revanche, il y a au moins 40% de gens qui hésitent, et c'est bien l'enseignant qui va les stimuler. Si l'enseignant n'arrive pas à démontrer pourquoi c'est bien d'aller étudier à l'étranger, ces gens-là n'oseront pas partir, parce qu'il y a un investissement personnel, et l'engagement est total. Et enfin, des étudiants pourraient se désinvestir complètement s'ils s'aperçoivent, comme il arrive, que des professeurs disent « Surtout, tu ne pars pas à l'étranger, parce que sinon, tu verras, à la rentrée, ça sera plus difficile pour toi. » Eh bien, si on a un enseignant peu convaincu, on peut décourager aussi des catégories d'étudiants. Donc, il y a un partenariat.
Alors, ces étudiants qui conseillent d'aller à l'étranger ou qui guident l'étudiant vers un pays étranger pour y apprendre avec ses homologues, est-ce qu'il est lui-même passé par la case étranger ?
Oui, ils ont tous fait des mobilités. Ils ont une expérience de l'international. Seulement, tout le monde n'a pas eu la chance de faire 3 ou 6 mois à l'étranger quand il était lui-même jeune. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va régulièrement à l'étranger dans des colloques, il rencontre des enseignants, on les envoie en mission pour explorer le partenaire. Donc c'est déjà quelqu'un qui volontairement connaît l'étranger. Mais ils n'ont pas forcément séjourné longtemps, mais c'est quelqu'un qui connaît la valeur ajoutée de ses séjours à l'étranger.
Alors, il y a des guides peut-être pour aller à l'étranger, il y a des sites internet où on peut quand même avoir une idée de ce qu'est un pays. Est-ce que vous avez des conseils supplémentaires qui sont du fait de votre pratique, de votre expérience ?
Oui, ce que l'on fait au Centre international, c'est que quand on a un étudiant qui vient et qui dit « je voudrais partir à l'étranger, vous voulez aller où ?» Les trois quarts du temps, on dit « je veux améliorer mes langues et je veux aller en Angleterre ». Limiter la mobilité internationale à l'Angleterre, c'est vraiment très réducteur. C'est très intéressant pour une partie des étudiants, mais ce n'est pas non plus la majorité. Donc l'apprentissage des langues, c'est un atout premier, évident. Mais si ce n'est pas intégré dans un projet de formation, ça perd de sa valeur. Et il existe plein de stages intensifs l'été, on peut aller payer des cours de langue, pas forcément non plus une fortune, ça coûterait moins cher que de partir en mobilité réelle. Ce que nous, on fait, c'est qu'on essaye de veiller à ce que ça soit intégré dans un projet éducatif. Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qu'il veut aller faire? Et il y a vraiment des étudiants qui sont très clairs. En licence, ils veulent aussi s'ouvrir l'esprit, prendre de l'air, comme on dit. Et ils ont besoin d'une maturité éducative pour comparer. Mais disons qu'il a besoin de se familiariser. Et puis en master, on va avoir des étudiants qui disent « moi j'ai vraiment envie de mieux maîtriser tel ou tel aspect de mon côté éducatif. Alors je vais continuer à améliorer mes langues, mais en plus... voilà, mon projet, ça sera ça. » Et ça, ces étudiants, on essaye de les accompagner et on les guide dans certains choix de partenaires, plutôt comme ci que comme ça. C'est surtout ça.
Quand ils se retrouvent, ces étudiants à l'étranger, est-ce qu'ils se retrouvent entre Français ou est-ce qu'ils sont éclatés ?
Non, il y a deux choses. En 20 ans d'Erasmus, on a professionnalisé les relations internationales. Ça, c'est bien, parce que maintenant, un étudiant peut se décider quasiment du jour au lendemain. Il aura des structures partout pour l'accueillir. Le seul problème, c'est qu'on est tellement bien organisé qu'on organise des sorties pour les Erasmus, on organise des fêtes, on organise des séminaires d'été ou même l'automne, ça dépend. On organise des cours de langue. Conclusion ? Ils ont tendance à vivre ensemble. Et comme il faut à tout être humain au moins 2 mois pour s'intégrer quelque part, que l'on soit français en France ou un étranger même en France, eh bien, pendant 2 mois, on vit cette première cristallisation avec des étrangers. Alors, pour pouvoir sortir de ça, il faut absolument s'imposer de vivre avec la société locale. Et quand un étudiant ne fait pas ce deuxième effort, de quitter son groupe après 2 mois d'intégration, eh bien, ils passent aux côtés des étudiants locaux. Et ici, des étudiants étrangers nous ont dit « Ah, les étudiants français sont pas très sympathiques, ils nous parlent pas facilement. » Et en fait, je crois que c'est parce que on ne sait pas qui il est, on n'a pas eu l'occasion de le rencontrer, et pendant 2 mois, on l'ignore. Et puis, on ne peut faire l'effort que si l'étudiant il a fait le premier pas. Et on dit la même chose à nos Français qui vont à l'étranger. Sinon, ils se renferment entre eux et c'est pas bon.
Est-ce que les étudiants étrangers qui sont ici à l'Université de Lille ont les mêmes problématiques que les étudiants français qui vont dans les différents pays ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment la même typologie. Maintenant, on connaît l'étudiant Erasmus. Il a un profil particulier et ils se ressemblent tous par rapport à la difficulté. Et je dirais même, beaucoup d'étudiants pensent que c'est à cause de leur niveau de langue qu'ils n'osent pas partir à l'étranger. Mais en revanche, quand on apprend l'anglais et qu'on arrive en Angleterre, eh bien, on a quand même besoin de s'accommoder pendant 2 mois. Et quand on va au Canada et qu'on parle français, il nous faut quand même 2 mois pour s'intégrer. Et donc, cette période, elle n'est pas liée à la langue, elle est liée au choc culturel. Et l'étudiant qui arrive à Lille ou celui qui part, c'est la même chose.
Il y a eu un moment où on disait les Français sont très mauvais pour les langues, c'est un vrai handicap. C'est encore le cas ?
Disons qu'on améliore progressivement. Les étudiants volontaires sont plus concernés. On trouve plus d'étudiants qui maîtrisent correctement l'anglais et d'autres langues. Mais en revanche, la moyenne des étudiants français continue à être assez moyen. Donc on est dans le même cas de figure que je vous disais, une catégorie qui a vraiment très envie de partir, et ceux-là, ils sont très volontaires, très déterminés, et il y en a beaucoup plus qu'avant. Mais il y a tout un ensemble, toute une masse qui pour l'instant est moyennement concernée.
Alors, Madame Delpouve, donc le centre international de Lille accueille de nombreux étrangers. Est-ce qu'on peut dire de plus en plus, ou est-ce que ça, comment ça se passe?
En fait, il y a deux catégories d'étudiants. Ceux qui viennent au centre international sont ceux pour lesquels nous avons signé des conventions de partenariat avec les universités étrangères. Mmh. Alors, il y en a de plus en plus, mais ça stagne. On a, on va dire, depuis 10 ans environ, 400 à 500 étudiants qui nous visitent chaque année. Pour le doubler, il faudrait doubler les moyens, doubler les partenariats. Donc on a un volume quasi constant. En revanche, on a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent librement, qui s'inscrivent au travers de la validation de leurs études. La demande est de plus en plus importante, elle est croissante. Lille 1 accueille 3900 étudiants internationaux par an. C'est énorme, avec 1000 nouveaux arrivants chaque année. Le seul problème, c'est que on ne connaît pas bien cette population et eux aussi, ils ont besoin d'être encadrés et ils ne bénéficient pas de cet encadrement. Donc ce qu'on fait aux relations internationales, c'est que c'est vrai qu'on bichonne une catégorie d'étudiants dans les partenariats parce qu'on s'est engagé à le faire, mais on travaille vraiment très rapproché aussi avec le service de la scolarité pour améliorer les procédures, être plus transparent dans nos cursus parce que les étudiants libres souffrent de la méconnaissance du contenu des cours. Donc on s'améliore et on travaille avec les campus France à l'étranger, qui eux-mêmes centralisent des informations sur nos établissements. Et avec la scolarité, on essaye d'améliorer ainsi le système. Et c'est vrai qu'on accueille de plus en plus d'étudiants internationaux.
Alors, vous l'aviez un peu souligné tout à l'heure, pour un étudiant qui arrive dans un pays étranger, déjà quand le cours est compliqué, c'est pas toujours évident de le comprendre en français, mais quand on est à l'étranger et qu'on l'apprend en étranger, enfin qu'on a accès par une langue étrangère, c'est encore moins facile. Donc quand les étudiants étrangers arrivent en France, ils ont un moment où ils ont accès à l'apprentissage du français de façon intensive.
On le propose systématiquement aux étudiants dans lesquels on a un partenariat, notamment des étudiants non francophones. On voit sur le campus qu'il y a beaucoup d'étudiants chinois. Certains sont venus par le biais de nos accords internationaux. Mais l'autre moitié, non. Et ils ne mesurent pas le parcours à faire pour apprendre le français. Alors le chinois, c'est le cas extrême parce qu'on a deux langues opposées, mais ça va être vrai aussi pour tous les pays du monde, ou même un Américain du Sud qui parle l'espagnol apprend très vite le français, mais de là à comprendre les subtilités, lui faut du temps. Alors oui, on leur met à la disposition des cours de français, ça reste encore timide, soit c'est très structuré, dans ce cas-là ça devient très intensif, soit on leur propose en cours du soir et le week-end. Pour l'instant, on a remarqué que l'information n'arrive pas toujours très vite à l'étudiant, donc on espère améliorer. Il y a un centre de langue avec une bonne équipe de français langue étrangère et ils font des propositions très pertinentes sur le français. Je trouve que l'étudiant étranger, pour l'instant, il n'en a pas encore assez profité parce que je pense qu'au début, il est intrigué par trop de choses et il n'avait pas pensé s'inscrire directement au cours. Il n'y pense souvent que l'année suivante ou au deuxième semestre, donc ça limite déjà un peu. Donc il y a des efforts à fournir sur l'information auprès de ces étudiants.
Est-ce que les pratiques sociales ou culturelles sont parfois des chocs pour les étudiants qui viennent de l'étranger ?
Oh bah toujours, bien sûr. Il y a des... Bon là, on est dans l'interculturel, c'est comment comprendre le message de l'autre. Pourquoi on pose des questions comme ça quand on est telle nationalité ? Pourquoi on répond toujours oui, même quand on n'a pas compris dans d'autres cas ? Et ça, c'est très perturbant. Je pense que l'enseignant français, le responsable administratif, la secrétaire, toutes ces personnes, à un moment donné, devraient un peu mieux comprendre que certains messages sont complètement compris autrement par l'étudiant étranger. Donc on devrait améliorer aussi notre propre connaissance de l'autre, parce qu'il y a des chocs, parce que on vit pas en résidence universitaire, on fait pas la cuisine de la même manière, on répond pas à l'enseignant de la même façon, et à chaque fois ça induit un message différent. C'est pas toujours très bien compris.
Alors, à Lille, j'allais dire, les étudiants ont beaucoup de chance, puisqu'il y a un environnement culturel qui est quand même assez conséquent. On peut voir, comprendre beaucoup de choses. Est-ce que les étudiants étrangers, premièrement, y ont accès? Deuxièmement, sont curieux de ça?
À la fois, oui et non. Je dirais que j'oserais mettre une différence entre l'étudiant européen et le non-européen. La réputation de Lille, au début, quand on a commencé Erasmus, les étudiants voulaient aller à Marseille et Nice. C'est très classique, c'est pour le soleil. On ne va pas revenir au film Bienvenue chez les Ch'tis, mais l'image, elle est identique à travers toute l'Europe. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est l'ouverture à tous les pays de l'Europe, donc à la fois des pays scandinaves ou de l'Europe de l'Est, mais tous ces étudiants, ils déjà trouvent que Lille, c'est déjà de l'exotisme. Mais en même temps, l'étudiant italien est très volontaire pour venir à Lille. Il est curieux, il va voyager. Et quand il rentre chez lui, il dit « Mais s'il vous plaît, les étudiants, allez à Lille, c'est trop sympa. Et on est super bien encadré, il y a plein de choses à faire. » Alors la réputation a fait que pour les Européens, on est toujours une place favorite. Et puis pour les non-européens, bah Lille, oui, évidemment, c'est exotique. On est réellement au cœur de l'Europe pour eux. Et donc, on a tous les atouts que l'on a tendance à décrire en publicité, mais qui sont réels. Mais ces étudiants n'ont pas toujours l'argent suffisant pour profiter de tout. Et un aller-retour sur Paris coûte cher. Un aller-retour sur Amsterdam aussi. Alors, certains étudiants restent enfermés dans leur chambre et ne peuvent pas vraiment bénéficier de cette culture. Et puis, vous prenez l'étudiant indien qui arrive ici, il est quand même à 50 euros près par mois. Et on a beau lui expliquer que vivre en France, il faut garder de l'argent pour faire du social, aller boire une bière, aller au métro jusqu'au cœur de l'île. Mais pour eux, un ticket de métro, c'est déjà une dépense inutile. Donc, on est dans un système là où les valeurs prennent d'autres circonstances, et je ne sais pas comment on peut les aider, hormis organiser, grâce à une association sur le campus, une association internationale des étudiants, pour quelques euros, ils peuvent être adhérents, et grâce à ça, ils peuvent aller quasi gratuitement faire des voyages et autres. Mais il faut pouvoir aller les rechercher. Certaines nationalités restent un peu enfermées sur eux-mêmes. Et je dirais que nous, c'est notre rôle de l'identifier pour les faire sortir un petit peu. Sinon, oui, les autres sont ravis de l'ambiance générale.
Le fait qu'il y ait sur l'Université de Lille un lieu culturel, des activités, c'est quelque chose qui favorise aussi les échanges.
L'étudiant international, je trouve qu'il a tendance à vouloir faire des petites fêtes aussi entre eux. Mmh. Donc ils essayent de choisir et de négocier, par exemple, avec un café sur l'île pour faire une fête et autres. Ils veulent surtout trouver une salle pour pouvoir fêter un anniversaire, pour pouvoir discuter.
Il y a la MDE maintenant ici.
Voilà, tout à fait. Mmh. Donc ça, on pense que ça va... Ils ont besoin de parler, ces étudiants-là. Ils sont toujours sur le campus. Ils sont très volontaires pour le sport. Et les services sportifs leur proposent des créneaux horaires particuliers pour pouvoir se retrouver. En tout cas, c'est une population dont on ne peut pas ignorer l'existence. 3 900 étudiants étrangers qui, en principe, sont les plus grands usagers du campus. Parce qu'eux ne rentrent pas le week-end chez eux, chez leurs parents. Et quand ils ont des vacances au printemps, ils restent sur le campus. Alors, il y a une animation. Souvent, ils aiment être propriétaires de leur animation. Mais ils ont besoin de lieux pour pouvoir le développer.
Si on parle de l'origine des étudiants, j'ai l'impression que... Ça a quand même beaucoup évolué depuis 20 ans. On ne voit plus les mêmes pays, les étudiants de même pays arriver en France. Ça s'est décentré.
Il y a beaucoup d'étudiants chinois qui sont venus un peu contrebalancer la grande domination des pays du Maghreb, tels que le trio de tête Maroc, Algérie et Tunisie. C'est vrai que la relation entre la France et l'Algérie pendant un certain nombre de temps et les difficultés pour obtenir les visas a fait que le Maroc est resté le premier pays qui visite la France. Et puis maintenant, ce sont les Chinois qui arrivent en deuxième position. Cela dit, 60% des étudiants du campus sont quand même du continent africain. Et ça, ça reste une dominante. Mmh. Il y a toujours un noyau dur d'Européens, mais maintenant, en proportion, je dirais que c'est relativement stable, d'une part parce que la population d'étudiants européens aussi a diminué, mais parce que les échanges se stabilisent. Et on a toute une catégorie de pays, dont l'Amérique latine, qui n'est pas encore très attirée par notre pays. Donc on essaye de développer des partenariats pour le favoriser. Mais la dominante est africaine.
Quels sont les plus gros problèmes que vous jugez actuellement par rapport aux étudiants et à peut-être certains étudiants? Est-ce que vous voyez des choses à régler dans les prochains mois, prochaines années?
Ben, ça va dépendre un petit peu des objectifs qu'on se fixe. Je pense qu'à chaque fois, il y a différentes réponses. Il n'y a pas un public international pour un problème. La première chose qui reste très fondamentale, c'est qu'il est vraiment important de développer la mobilité en Europe. C'est notre fonds de commerce, on ne peut pas baisser. Pour la développer, il faut favoriser les échanges, il faut donc réformer le contenu des cours. Non pas notre façon forcément d'enseigner, mais c'est parce qu'on a demain un public nouveau. On va avoir de la mobilité à l'intérieur d'un cursus. Est-ce qu'un professeur a pensé à mettre ce semestre-là facile? Est-ce qu'il n'y a pas des blocages? Si, il y a des blocages. Est-ce qu'on a assez de partenaires pour faire des échanges? Et est-ce que nos cursus sont transparents? Est-ce que je suis compris de mon voisin? Non, pas forcément. Il y a plein de problèmes derrière. On ne comprend pas forcément les mêmes mots ou les mêmes définitions derrière les mêmes mots. Donc en termes de contenu de formation, on est dans une réforme. Mais il faut savoir que la réforme, la base de cette réforme, c'est augmenter la mobilité à l'intérieur de l'Europe. Et on s'est rendu compte qu'en modifiant, qu'en faisant une réforme, on avait d'autres réticences et que finalement, on est toujours en train d'essayer d'améliorer. Et ensuite, on a les étudiants du monde entier. Eh bien, il faut connaître leurs projets parce qu'on a vu que le taux de succès des études d'un étudiant, il est lié à sa capacité à écrire et à définir son projet personnel. Et il y a quand même beaucoup d'étudiants qui ont un rêve de venir en Europe en disant « je ne sais pas ce que je vais y faire, mais je pense que ça sera toujours bien ». Cela définit assez mal. Et il faut donc pouvoir être capable de les aider avant qu'ils ne quittent leur territoire. Pour ça, il faut les accompagner dans une démarche pédagogique d'information et d'orientation, au même titre qu'on le ferait avec l'étudiant français.
En quelques secondes, si vous aviez un vœu à formuler.
Ah, comme ça, spontanément. Mon vœu, c'est que tout étudiant ait la chance de pouvoir partir à l'étranger sans qu'il y ait de frein et qu'il y ait assez de parcours libre pour qu'il n'y ait pas de problème de reconnaissance dans les diplômes qu'il a obtenus et que du coup, la libre circulation des individus ne pose plus de questions fondamentales.
Madame Béatrice Delpoux, je vous remercie.
Je vous remercie à vous aussi.